Vous écoutez, on lit pour vous.
Les médicaments en vente libre, trop souvent pris à la légère, un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 23 août 2024 dans Le Devoir. Bien que l'acétaminophène, Tylenol, et l'ibuprofène, Advil, Motrin, soient deux médicaments en vente libre sur les étagères des pharmacies, leur consommation doit être prise au sérieux, car un non-respect de la posologie peut entraîner des problèmes de santé, parfois d'une gravité assez sévère. L'acétaminophène et l'ibuprofène sont deux médicaments qui sont banalisés par beaucoup de gens, admet David Gauthier, pharmacien propriétaire de deux pharmacies du groupe Brunet à Sorel-Tracy. De 2019 à 2023, Santé Canada a reçu 1197 déclarations d'effets indésirables reliées à une surdose d'acétaminophène, ayant mené à une hospitalisation ou une prolongation d'hospitalisation et 446 avec l'ingrédient actif ibuprofène. Il ne s'agit pas ici de surdose mortelle, mais c'est une possibilité dans les cas extrêmes. Une des erreurs les plus communes est de prendre trop de comprimés d'un seul coup. Advenant qu'après une heure ou deux, les médicaments ne fassent pas effet, la personne malade peut combiner l'acétaminophène et l'ibuprofène, conseille M. Gauthier. Si la personne a pris, par exemple, deux comprimés de Tylenol et que la fièvre perdure après deux heures, cette dernière peut prendre un à deux comprimés d'Advil ou de Motrin. Si on respecte la posologie de chacun, les deux peuvent se combiner sans problème, assure le pharmacien. Il constate qu'à l'inverse, certains vont éviter de prendre ces médicaments malgré une douleur. Parfois, quelqu'un qui souffre ne va pas prendre du Tylenol parce que c'est juste du Tylenol. Chez d'autres personnes, quand elles ont mal, au lieu de prendre deux comprimés, elles vont en prendre trois, même quatre. Comme pharmacien, on en entend de toutes les couleurs, raconte M. Gauthier. En prendre trop sans le savoir. Un aspect insoupçonné de l'ibuprofène et de l'acétaminophène est qu'on en retrouve dans de nombreux autres médicaments en vente libre en pharmacie. L'acétaminophène est présent, entre autres, dans des médicaments contre la grippe, des sirops pour la toux et des relaxants musculaires, Robaxacet. Quelqu'un peut facilement se retrouver à prendre beaucoup de Tylenol sans s'en rendre compte, met en garde M. Gauthier. Un des gros risques avec le Tylenol est qu'il y en a tellement dans différents produits que c'est difficile de savoir exactement où il est. Pour le commun des mortels, pour les personnes âgées, c'est encore plus difficile de repérer l'acétaminophène et de comprendre que c'est bien cela, ajoute le pharmacien. Lui-même, comme professionnel, contre-vérifie la liste des ingrédients de certains emballages. Pour l'ibuprofène, on en retrouve dans des relaxants musculaires, Robax Platine. Il y en a aussi dans les médicaments pour le rhume, le plus souvent ceux qui visent la congestion. Les dangers pour la santé. Chez les gens en bonne santé, on conseille de prendre jusqu'à 4 grammes d'acétaminophène par jour, l'équivalent de la fameuse posologie de 1 à 2 comprimés extra forts aux 4 à 6 heures, 4 fois par jour maximum. Chez la personne âgée, qui va le prendre de façon chronique, on diminue cette dose autour de 3 grammes par jour. La raison principale est vraiment au niveau du foie, des enzymes hépatiques qu'on veut faire attention, explique M. Gauthier. L'acétaminophène est effectivement dur pour le foie. Il pose surtout un risque de complications pour les personnes âgées, les personnes qui consomment de l'alcool en grande quantité et les gens qui ont des problèmes aux reins, indique le pharmacien. On peut arriver à une insuffisance hépatique aiguë et même chronique avec une surdose de Tylenol, prévient-il. Mais l'ibuprofène est associé à davantage de contre-indications. Parfois, les pharmaciens, ça nous inquiète un peu plus parce qu'on n'attrapera pas le patient qui va aller en vente libre, s'auto-médicamenter, dit-il. L'ibuprofène, qui est un anti-inflammatoire non stéroïdien, peut avoir un effet sur l'hypertension artérielle et sur les reins. Il est aussi naturellement plus difficile pour l'estomac que l'acétaminophène, dont il va abîmer la muqueuse naturelle qui le protège. Un patient peut en venir à développer un ulcère d'estomac, une douleur particulièrement intense, selon M. Gauthier. Pour cette raison, il n'est pas possible de maintenir un patient sur l'ibuprofène. Il ne faut pas s'alarmer, nuance M. Gauthier. Il faut le bon médicament pour la bonne personne au bon moment. C'est de base, mais c'est vrai. On peut, par exemple, utiliser un anti-inflammatoire non stéroïdien comme de l'ibuprofène sur une personne qui a un problème de pression artérielle. C'est juste qu'il faut bien l'utiliser sur une courte période avec un bon suivi. Il constate que depuis quelques années, les gens se tournent davantage vers les pharmaciens et n'hésitent pas à demander conseil, ce dont M. Gauthier se réjouit. Il le remarque un peu moins du côté des jeunes adultes ou des gens qui ne viennent jamais au comptoir de prescription. Tant mieux, ils ne sont pas malades, souligne M. Gauthier. Simplement, cette clientèle a moins le réflexe d'aller consulter le pharmacien. En s'auto-médicamentant, ils doivent être plus prudents et bien suivre les instructions sur les emballages. C'était « Les médicaments en vente libre, trop souvent pris à la légère », un texte de Catherine Desautels de La Presse canadienne, paru le 23 août 2024 dans Le Devoir.
Le coût humain de la disparition des vautours. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 septembre 2024 dans La Presse. La disparition presque complète des vautours en Inde cause 100 000 morts par année chez les humains, selon une étude. Effondrement. Il y a 40 ans, il y avait 40 millions de vautours en Inde. Maintenant, il y en a à peine 20 000. Le coupable? Le diclofénac, un ingrédient anti-inflammatoire que l'on trouve par exemple dans l'onguent Voltaren au Canada. En Inde, il est utilisé par les vétérinaires. La disparition des vautours en Inde est une catastrophe qui a beaucoup frappé les esprits, explique Anand Sudarshan, un économiste de l'Université de Warwick en Angleterre, qui est co-auteur d'une étude publiée en juillet dans l'American Economic Review. Anand Sudarshan dit « Je me souviens personnellement que, petit, je voyais tous les jours des dizaines de vautours sur des carcasses d'animaux. Nous montrons que leur absence a des effets bien réels sur la santé publique. » Les vautours mangeaient les animaux morts qui, en Inde, sont souvent laissés sur place, explique M. Sudarshan. Cela a fait augmenter la circulation des maladies infectieuses, notamment la rage, transmise par les chiens errants plus nombreux à cause de la plus grande disponibilité de carcasses à manger. M. Sudarshan et son collègue, Yeyal Frank, ont calculé qu'entre 2000 et 2005, la disparition des vautours a augmenté le nombre de cas de mortalité de 100 000 chaque année en Inde. Cela équivaut à un coût sociétal de 70 milliards US par année. Le calcul tient compte du PIB par habitant plus faible en Inde qu'en Occident. Brevet. L'origine du problème est la fin du brevet sur le diclofénac en 1994. Le prix de cette antidouleur a chuté et des vétérinaires indiens se sont mis à le prescrire à de multiples agriculteurs pour des mastites et des problèmes de sabots du bétail. Quand les animaux mouraient dans les champs, les vautours s'empoisonnaient avec le diclofénac. Le mystère de la disparition des vautours indiens a été élucidé par des biologistes américains en 2004, ce qui a mené à l'interdiction du diclofénac vétérinaire en Inde en 2006. Mais les agriculteurs contournaient le problème avec du diclofénac à usage humain. En 2020, le diclofénac à usage humain a aussi été sévèrement restreint. Il y a maintenant le même problème en Afrique, note M. Sudarshan. Pas au Canada. On en parle souvent dans les congrès, explique Guy Fitzgerald de l'École de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Ici, au Canada, le diclofénac n'est pas homologué pour usage vétérinaire, sauf en goutte oculaire. L'antidouleur recommandé en Inde comme solution de rechange au diclofénac, le meloxicam, est privilégié au Canada selon Merle Olson, un vétérinaire du gouvernement albertain qui a écrit des notices sur le meloxicam. Le meloxicam ne coûte pas vraiment plus cher, dit le docteur Olson. Souvent, la disponibilité dans un marché dépend d'une compagnie qui crée une chaîne de production et ensuite pousse pour une approbation. Le diclofénac n'a pas un effet très néfaste sur les oiseaux de l'Amérique du Nord, selon les docteurs Fitzgerald et Olson. Autre différence entre le Canada et l'Inde. Ici, les animaux qui meurent ne sont pas abandonnés dans les champs, note Stéphane Lair, aussi de l'École de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. M. Sudarshan ajoute que les systèmes de traitement de l'eau sont plus courants en Occident qu'en Inde. En Europe, des cas isolés de vautours empoisonnés par le diclofénac ont été rapportés, suscitant des appels à une interdiction là aussi. Bébé et chauve-souris. L'autre co-auteur de l'étude, Eyal Frank de l'Université de Chicago, a publié début septembre dans la revue Science une étude illustrant le même phénomène, mais avec des chauves-souris, aux États-Unis. Un champignon décime les colonies de chauves-souris en Amérique du Nord, y compris au Québec. Cette maladie du museau blanc fait bondir les ventes d'insecticides parce que les chauves-souris se nourrissent d'insectes et donc leur absence fait augmenter le nombre d'insectes piqueurs. L'analyse de M. Franck montre que dans les comtés américains touchés par la maladie du museau blanc, les ventes d'insecticides augmente de 31%. Cela a un effet néfaste sur la santé des nourrissons selon son analyse. La mortalité infantile augmente par une moyenne de 7,9%. D'autres exemples. Au-delà de la disparition des vautours et de son effet sur la santé humaine, cette histoire montre l'importance d'examiner les pertes de biodiversité sous plusieurs angles, selon M. Franck. Il peut être important, dit-il, de vérifier s'il y a une espèce cruciale pour la santé d'un écosystème qui est affecté. Y a-t-il d'autres exemples similaires? M. Franck note une étude montrant qu'au Wisconsin, la réintroduction des loups a diminué les collisions entre voitures et cerfs. Une étude en 2020 a calculé que les bénéfices pour la société de cette réduction des accidents automobiles était 63 fois plus important que les pertes des éleveurs dont les bêtes étaient attaquées par les loups. Les chercheurs, qui se concentrent sur les vautours, citent aussi une étude montrant que les pertes d'arbres liées à l'agrile du frêne ont augmenté les maladies cardiovasculaires et maladies respiratoires dans les villes les plus touchées à cause de la perte de l'effet filtrant des frênes. Funérailles. La disparition des vautours a même une incidence religieuse et culturelle chez les Parsis en Inde. Un article de la revue VQR a relaté une controverse dans cette communauté concernant leur rite funéraire datant de 2000 ans. Les Parsis, laissent leur mort sur des tours du silence, où traditionnellement ils étaient dévorés par les vautours. Les dépouilles aujourd'hui pourrissent, ce qui a entraîné un débat sur l'adoption possible de la crémation par cette communauté. En savoir plus sur ce vécuaire. 5 millions. Nombre de chiens errants supplémentaires liés à la disparition des vautours en Inde. 38 millions. Nombre de morsures de chiens supplémentaires liées à la disparition des vautours en Inde. 47 000. Nombre de cas de rage supplémentaires liés à la disparition des vautours en Inde. C'était « Le coût humain de la disparition des vautours », un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 septembre 2024 dans La Presse.
La rentrée littéraire 2024, littérature étrangère à surveiller. 10 suggestions de lecture d'Audrey Martel, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Cette année encore, nous aurons droit à une rentrée littéraire moins costaude, puisque le mot d'ordre du côté des éditeurs français est de publier moins, mais mieux. Cela dit, avec quelques 459 nouvelles parutions entre les mois d'août et octobre, gageons que nous trouverons de quoi satisfaire notre envie de lecture pour au moins quelques semaines. Après tout, il ne s'agit que d'une diminution de 1,5% par rapport à l'an dernier. Entre les valeurs sûres, les seconds romans tant attendus, les primo-romanciers et les traductions que nous pourrons enfin dévorer dans la langue de Molière, il y a vraiment de quoi passer plusieurs nuits blanches à lire, lire, lire. 1. Le mal joli. Emma Becker, chez Albin Michel. Emma Becker aime brasser les conventions et les lecteurs par le fait même. Elle nous en fait à nouveau la démonstration dans Le mal joli, son 6e roman. L'autrice, désormais épouse et mère, ne compte pas renoncer au plaisir de la chair pour autant, loin de là. Elle devient ainsi l'amante d'un écrivain connu et vit avec lui une histoire fulgurante. Ce livre, écrit au moment même où elle vivait cette histoire d'infidélité, dissèque la passion amoureuse qui parvient à se glisser à travers la toile de la charge mentale et qui en révèle beaucoup sur la femme et l'écrivaine qu'elle est. 2. Dors ton sommeil de brute. Carole Martinez, chez Gallimard. Dors ton sommeil de brute se déroule dans un futur proche et s'ouvre sur l'une des plus belles scènes d'accouchement de la littérature. 8 ans plus tard, on retrouve cette mère et sa fille isolées du reste du monde au milieu de la nature. C'est avec un sens de la narration impressionnant que Carole Martinez transforme une histoire familiale en dystopie et tente de percer le fin voile séparant le monde réel de celui des rêves. Le roman prend un tournant surprenant lorsqu'au milieu de la nuit, tous les enfants du monde se réveillent pour pousser un hurlement terrifiant, captivant. 3. Les âmes féroces. Marie Vingtra, chez L'Olivier. Après Blizzard, élu prix des libraires français en 2022, Marie Vingtra nous offre ici un vrai roman américain. Les âmes féroces mettent en scène une lesbienne élue à titre de shérif aux grandes dames de certains autres policiers et du maire de cette petite ville tranquille où il ne se passe pas grand-chose.
C'est donc une véritable onde de choc qui se produit quand on trouve le cadavre d'une adolescente bien sous tout rapport. Quels sont les secrets de cette jeune fille? Sous forme de roman choral, donnant la voix à différents protagonistes liés à l'enquête, Les âmes féroces s'avère un parfait roman social déguisé en roman policier. 4. Les éphémères. Andrew O'Hagan, chez Métallier. Ce grand roman sur l'amitié au masculin a séduit les critiques lors de sa parution en version originale. Nous y rencontrons deux amis fanatiques de musique dans l'Irlande des années 1980, où l'économie peine à se relever des réformes de Thatcher. Une quarantaine d'années plus tard, nous retrouvons les deux hommes, toujours amis, un peu moins punk et faisant désormais face à de grands défis. Un roman qui peut appeler, à certains égards, « Une vie comme les autres » de Anya Yanagihara chez Buchet-Chastel, puisqu'il nous démontre que l'amitié peut être un élément central de l'existence. 5. Bien-être. Nathan Hill, traduction Nathalie Bru, chez Gallimard. Par la fenêtre de son appartement, un jeune homme observe quotidiennement sa voisine. Il copie ses choix de livres et sa sélection musicale et espère un jour pouvoir lui adresser la parole. Ce qu'il ignore, c'est qu'elle aussi l'observe. Voici le début d'une belle histoire d'amour que l'on suivra tout au long du second roman de l'Américain Nathan Hill. 20 ans après cette rencontre, que reste-t-il de l'amour? Qui sommes-nous à travers nos désirs et nos paradoxes? Un grand livre qui deviendra sans doute un classique. 6. Pour Brittany. Louise Chenevière, chez POL. Lorsqu'elle retrouve dans une boîte de souvenirs des traces de sa passion d'enfance pour la chanteuse Britney Spears, l'autrice revisite le destin de la reine de la pop. Entremêlant habilement sa propre vie à celle de Britney et de Nelly Arcan, une autre femme victime de l'objectification de son corps, Louise Chenevière réfléchit à la culture du viol, au corps des femmes, à notre rapport à l'image et à la sexualité. Dans une écriture syncopée, l'autrice brosse un portrait juste et bouleversant de ce que signifie être une femme. Ce livre est une véritable déflagration qui n'est pas sans rappeler la puissance de « Triste tigre » de Neige Sino. 7. La vie infinie. Jennifer Richard, Philip Ray. Jennifer Richard, dont le premier roman « Il est à toi ce beau pays » chez Albin Michel, avait été salué par la critique, publie cet automne un troisième ouvrage à saveur philosophique et prophétique. Vaut-il mieux chercher une façon de vivre sans souffrance, ou plutôt accepter la vie telle qu'elle est, avec ses joies et ses peines? Céline réfléchit à ce dilemme lorsqu'elle rencontre un ami d'enfance l'encourageant à apprivoiser les joies et les deuils, tandis que son mari travaille au développement d'un programme qui permettra la vie éternelle. Un roman sensible et intelligent. 8. L'adversaire. Michael Crummy, traduction Aurélie Laroche, chez Leméac. Au début du 19e siècle, dans un village côtier de Terre-Neuve, une communauté est divisée par la haine et par de vieilles rancœurs qui prennent source dans la rivalité apparemment éternelle opposant un frère et une sœur. Ce roman, qualifié de chef-d'œuvre par le Toronto Star, décrit, dans un style élégant, la rudesse de la vie sur la côte est du Canada. Bien que sombre et peuplé d'êtres sournois et vils, ce livre fascinant expose l'adversité sous toutes ses formes, incluant celles que l'on représente pour nous-mêmes. 9. Saison toxique pour les fœtus. Vera Bogdanova, traduction Laurence Foulon, chez Actes Sud. Née en 1986, Vera Bogdanova est en quelque sorte la voix des milléniaux en Russie, à la façon d'une Sally Rooney. Saison toxique pour les fœtus a d'ailleurs été un best-seller lors de sa parution en version originale. On y suit les cousins Ilia et Genia de 1995 à 2010 à travers les bouleversements économiques de la Russie et les tourments familiaux. Alors que la jeune Genia quitte peu à peu l'enfance, elle découvre la violence des hommes et la malédiction que peut signifier le fait de naître femme en Russie, tandis que son cousin, lui, rêve d'avoir un métier qui lui permettra de se sortir de sa condition sociale inférieure. 10. La confession. Romane Lafaure, chez Flammarion. La confession, c'est celle de la narratrice qui, dès le premier chapitre, révèle qu'elle a gravement péché, sans en dire davantage. Romane Lafaure nous tient en haleine tout au long de ces 288 pages, nous racontant l'histoire d'Agnès. Jeune catholique issue de l'aristocratie française et très pratiquante, de celle qui milite contre le mariage pour tous et s'implique dans le mouvement anti-avortement, Agnès vient tout juste de se marier et rêve déjà à la famille nombreuse qu'elle aura. Les enjeux de fertilité et le désarroi marital viendront peu à peu entacher son bonheur et sa foi. C'était la rentrée littéraire 2024, littérature étrangère à surveiller. 10 suggestions de lecture d'Audrey Martel, paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.